J'ai voulu, avec ce roman, adresser aussi un clin d'œil romanesque au poème de Baudelaire à une passante. La rue assourdissante autour de moi hurlait, longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa, d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble, avec sa jambe de statue, moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, 1857. Les regards de Léa, tome 1, épisode 1.
Chapitre 1er. Un 28 octobre, un peu avant 8 heures. Fidèle, rassurante, la station l'attendait un peu plus loin sur le trottoir.
Dans une petite heure, je la rejoins.
Il le savait. Ses marches l'accueilleraient. Sa chaleur l'enlacerait. Sa tranquillité feutrée le rassurerait. Il patienterait en début de quai, attentif. On ne sait jamais. Ici, parfois... Puis très vite, un premier métro s'approcherait. La voiture de tête glisserait jusqu'à ses pieds, pousserait un soupir et ses portes s'écarteraient. Lui s'avancerait. Alors, il surgirait. Toujours, il surgissait. Leur regard. Antoine les chercherait. 1, 5, puis, en remontant entre les sièges, en changeant de voiture, ou plus tard dans la journée au fil des métros entre deux rendez-vous, sur des centaines de visages de femmes inconnues, pour les provoquer et les tester, il les chercherait. Souvent perdus, discrets, oublieux, ils ignoreraient le sien. Certains, en errance, l'effleureraient. Des dilettantes, ils s'en amusaient, qui pour la plupart s'abandonnaient, déviaient, s'évadaient. Un d'entre eux peut-être s'aventurerait, risquerait l'accroche silencieuse, peut-être. Mais il ne tiendrait pas, aucun jamais n'avait tenu, jusqu'au terme symbolique, 10 secondes. Et son sens, le seul auquel, depuis 30 ans, Antoine n'avait jamais renoncé. Comme chaque matin au baricou, attablé dans l'angle de la véranda, Antoine donnait libre cours à son petit soliloque intérieur. La pluie suspendit ses gifles bruyantes. Le boulevard du temple flotta quelques instants dans une lumière palote. De l'autre côté du carrefour, au fronton du cirque d'hiver, la fonte de la guerrière à cheval se mit à luire sous un rayon timide. Une chaleur s'installa. Il dut porter ses lunettes de soleil pour continuer à rêvasser en regardant la rue. À travers un reflet de la vitre, il discerna un mouvement qui tentait de capter son attention. L'homme du kiosque agitait le bras. Antoine lui répondit d'un geste amical. Mohamed signalait de l'index qu'il avait oublié tout à l'heure de lui remettre le supplément week-end. Il le gardait de côté. Antoine acquiesça en levant le pouce. Mohamed, un peu la balise d'entrée de Port Baricou, bar, escale, cantine et surtout abri. La journée avait débuté par le passage rituel au kiosque. Libet réservé, plié en deux, l'odeur de l'encre fraîche qui surgit en l'entrouvrant pour lire la une, la porte du bar, les bonjours de loin échangés sur deux notes, mi, ré, dièse, par exemple, mais très souvent un demi-ton d'écart entre bon et jour, avait-il remarqué. Puis la table d'angle, contre la vitre, avec le courant d'air, comme ça elle se trouvait peu fréquentée. Expresso! Parfois, c'était deux. À cet endroit, une vibration remontait du sol et s'insinuait jusqu'à sa tasse, décelée par le seul tressaillement de la mousse. Plus tard s'approcherait Jacques, l'incontournable Jacques, armé de sa petite causerie. Après ça, amertume du café recueilli sur l'arrière de la langue, il quitterait les lieux, un peu avant 10 heures, pour rejoindre sa station, fille du calvaire. Il ôta son cardigan et limé, comme il aimait son odeur de feu de bois, celle du poêle de l'atelier, et sortit de la poche intérieure de poitrine un épais carnet à la couverture noire. Il le déposa devant lui.
« Tout est là maintenant. »
Il releva la tête et adressa à Jacques le mime d'une tasse portée aux lèvres. Celui-ci arriva rapidement, glissa la soucoupe en effleurant le bord de la reliure. Le carnet bougea un peu.
« Sans rien dire, mais tout de même avec un sourire. Ah, Mister Jacques, tu voudrais bien savoir ce que j'écris là-dedans depuis 2 mois. Hein »
L'homme s'éloigna vers le fond de la salle. Quinca, bedonnant, de taille moyenne, au teint hâlé, aux sourcils gris et broussailleux qu'il maintenait l'un ou l'autre en position circonflexe, il se donnait l'air du gars toujours prêt à balancer une blague au détour d'une réflexion. C'était son charme, son plaisir. Il en jouait, virevoltant dans le bar. Jacques arborait une aisance juvénile. Il chorégraphiait ses services matinaux.
« Bon, c'est juste qu'aujourd'hui je n'ai pas envie de tes plaisanteries à 2 balles. »
Antoine les connaissait, s'immisçant soudain dans le ronron des discussions, imposant à tous un nouveau calembour ou une devinette à la solution complexe et calculée, ayant trait en général au sexe. Non, ce n'était pas le moment. Il reposa sa tasse, vidée d'une brève gorgée, et appuya sa paume sur le cuir damé de la couverture. Enfin, il va falloir oser tout lire. Antoine avait prononcé la remarque à voix haute. Il tourna la tête. Ce coin du baricou restait tranquille. Continuant à marmotter à l'abri de sa main, il rapprocha le carnet, l'entrouvrit, reluqua la première page, le titre « Petite mort du verbe ». Il referma.
« Toutes ces nuits pour un carnet ».
Il s'était éveillé un matin de juin, las et inquiet d'un rêve trop baroque et trop prégnant à la fois. Une sorte de magma lointain où partousaient des silhouettes féminines impossibles à reconnaître, mais dont il savait une chose, toutes dataient de son adolescence. Cela ressemblait à une soirée, avec ses filles hurlant et lutinant au rythme d'une musique assourdissante. Et lui, au réveil, en nage, sur son lit, avec une soif sèche, douloureuse. Un mal de gorge s'était installé pendant 3 jours, sans raison, sauf à s'avouer que, oui, il y avait bien eu une partie d'après-midi, à 12 ans, mais très sage, au cours de laquelle, en quelques heures à peine, était née l'idée du jeu. Rien qu'un jeu. Mais faussé, comme endeuillé. Parce que les premiers mots d'amour balbutiaient, faute de pouvoir séduire, s'était asphyxié. Alors, pour s'amuser, oui, précisément ce jour-là, et pour la première fois, il s'était invité. Lui, l'autre, le regard, une sorte d'héritier naturel, présent au chevet du verbe, recueillant ses dernières volontés, tous ses pouvoirs. Et ce qui n'aurait dû être que le pari d'un jour s'était transformé en un refuge, puis une épreuve, enfin un rite, fondateur d'un règne poussé jusqu'à son aberration, séduire sans les mots. Mais ce n'était qu'un défi d'ado, ça n'a duré que quelques années, avait commencé par fulminer Antoine, renâclant devant son propre aveu. Puis, à la fin août, supposant que peut-être sa dérive actuelle s'enracinait si loin dans son passé, il avait décidé. Je devrais écrire sur cette période, débusquer tout ça, organiser la mise à mot de mes fantômes. Ce serait plus clair. C'était enchaîné des dizaines de nuits, fécondes, sous rhum ou whisky, des cachets aussi, jusqu'aux délires les plus douloureux, des feuilles mille fois raturées et griffonnées. Il retourna le carnet et de la paume lissa doucement la couverture. La transcription venait de s'achever, juste avant l'aube. Saoul jusqu'à la dernière ligne, accroupi et le dos appuyé au grand mur de l'atelier, Antoine avait soupiré. Ce ne serait que ça, finalement. Que ça. Il s'était laissé glisser à terre, abandonnant sa cigarette dans le verre vide, écoutant le bref grésillement lorsqu'elle avait absorbé la goutte de rhum qui restait au fond. Puis, il s'était allongé sur le côté. Le plancher sentait la vieille poussière. Il l'avait reniflé un peu avant de sombrer. Il releva la tête. Jacques, sourcils ironiques, se faufilait entre deux tables en se dirigeant vers le comptoir.
« Les mots, mon pote. Leur pouvoir, leurs ivresses. N'empêche qu'à l'époque, tu avais presque réussi le pari de ton passé. »«
Oui, presque, » ricana-t-il. Antoine jeta un œil à la première page. Ça ne suffisait pas à comprendre. Le jeu du regard, peut-être. Prolongé, certes, transformé en promenade, en jouissance voyageuse. Sans doute. Mais il y avait autre chose, forcément, pour que, 30 ans plus tard, ce rêve s'impose.
Et ce serait là-dedans ? Transformé en une histoire ? Ton histoire dont tu aurais rassemblé les morceaux ?
Il feuilleta d'un arc de pouce la centaine de pages qui exhalaient une odeur nouvelle, différente.
Et après ? Oui, tu feras quoi avec ça ? Ah oui, bien sûr. Sûrement tu vas fonder un homme nouveau. On se marre, quoi.
Antoine, ce matin-là, entama pour la première fois la lecture intégrale de son carnet. Carnet, volume 1. Extrait. Page de garde. Si vous trouvez ce carnet, merci d'écrire à Anton 08 10 19 53 @gmail.com. Note du 3 septembre, 23h45. Allez jusqu'au bout. Évitez la peur. Quel est le risque? Moins boire. T'as jamais écrit. C'est pas gagné. Petite mort du verbe. Ma famille se foutait complètement de ses ancêtres. Pas d'arbres, pas de mémoire. Mes parents disparus, je me souviens avoir vidé les malles. Des piles de journaux jaunis, datant d'avant-guerre. Des breloques dépareillées, sans valeur. Pas de lettres et un seul héritage. Le silence de mon père, imposé à ma mère. Et celui de ma mère. Emportée avec elle. Chez le notaire, rien. Mais une trace a survécu et pour cause, celle d'un vague arrière-grand-père paternel, peut-être slave, Anton. On m'a doté de la version française de son prénom, Antoine. Un prénom influence-t-il le caractère ? Dans mon cas, cette hypothèse se trouve renforcée par une des rares anecdotes qui me restent de mon enfance. Un jour, au cours d'un repas d'amis, j'entendis mon père lancer d'une voix forte « Anton, un sacré cosaque ton aïeul. Et vous savez quoi ? Il pratiquait l'amour libre, lui. » Il aurait pu dire « l'aïeul » ou bien « notre aïeul ». Or, il avait choisi ton aïeul, le mien. Empourpré jusqu'aux pommettes, je gardais la tête basse. Peut-être ponctua-t-il ces mots d'un clin d'œil moqueur adressé à ma mère, car je me souviens précisément du coude de celle-ci. Il traversa le court horizon que mes yeux indécis embrassaient, et là, au bout de la nappe garnie de miettes, entre les plats et les assiettes, les couverts et les bouteilles bien entamées, je vis mon père faire semblant de se tordre de douleur. Je me figeais ainsi, suspendu entre les rires attablés et les tintements des verres entrechoqués, affublé désormais de cette question embarrassante qu'il n'aurait pas fallu poser, et sans doute l'ai-je hasardé plusieurs fois sans succès avant d'y renoncer. C'est quoi un amour pas libre? A-t-elle affecté mon itinéraire amoureux? Aujourd'hui, je serais tentée de répondre oui. Or, à 10 ans, mon bestiaire de fantasmes demeurait vierge. J'aurais dû le peupler d'entités cohérentes avec mon âge. Une île, un coffre, un pirate. Les romans, Stevenson, par exemple, existaient pour cela. Fébrile, je préférais engendrer une adaptation et confier le rôle de Flint le maudit à mon aïeul Anton le mystérieux, qui aurait enfui dans le centre d'un continent féminin à explorer un merveilleux trésor, un concept prodigieux d'amour libre. Je l'imaginais, pour mes besoins héroïques, sous les traits d'une femme sublime et idyllique. J'habitais une ville du massif central, aux murs gris de granit et à l'accent lourd. Certains diront vulgaire. Je l'aimais, cet accent. Gamin, nous y trempions nos blagues, nos récitations et nos lectures à voix haute sous la surveillance de maîtres d'école qui n'en pouvaient plus de l'éviter eux-mêmes. Transportés fièrement jusqu'au collège, par nous, les gars des quartiers populaires des bords du fleuve, il dut se conformer à un nouvel environnement. Dès l'entrée en 6e, Petit Prince d'une ère primaire masculine, nous chutâmes au sein d'une ère secondaire dominée par la séduction féminine. Et notre accent, ce complice batailleur, confronté au parler bourgeois, clair, sans scorie, s'avéra alors un vecteur de fracture. Danger réel, peu importait. Nous nous rallions à un seul mot d'ordre, inconscient, mais partagé, s'adapter. Jamais spéciation ne fut plus vite accomplie. Nos corps mutèrent, entraînant dans un même tourbillon nos cordes vocales, nos langages et l'accent qui se désagrégea en quelques mois. Nous gravîmes ainsi les premières marches de l'évolution virile, depuis l'espèce enfant vers l'espèce ado. Nous ignorions que le simple emprunt de ce bout de chemin chaotique entamerait à terme le délitement de nos fondations fraternelles. Le processus débuta par une fameuse réforme, la mixité devint obligatoire. Ce fut une très brève période de l'histoire issue du bouillon de l'année 68. Celles et ceux d'avant devront admettre que dans leur dos se déroula une révolution qui bouleversa les sens et dont les effets ne les atteignirent peut-être pas. Celles et ceux d'après n'y virent que des acquis dont ils profitèrent sans conscience. La directrice de l'honorable établissement désigné pilote du test commença par maintenir dans le règlement intérieur un artifice de résistance, un ultime rempart de la respectabilité avant l'explosion en partouze générale. Sans doute se figurait-elle ainsi le futur dont elle nous protégeait. En fait, un parangon de vertu affichée, blouse. En coton bleu ouvrier, droite et sans taille pour les garçons, blouse nous donnait l'allure d'instituteurs miniatures. Celles des filles à carreaux roses ou verts, selon la semaine, devaient, pour s'adapter à un autre règlement qui interdisait le pantalon et forçait donc au port de la jupe, s'arrêter en dessous du genou. Or, la mode féminine évoluait vers des dimensions minimalistes. Cette année-là, le fabricant et fournisseur des magasins de la ville crut bon d'accompagner un peu le mouvement. Et blouse se mit à volter à des hauteurs inhabituelles. Propulsée sur le devant de la scène par les parents les plus aisés, qui renouvelaient le terrible outil avant chaque rentrée, mais projetant cette fois leurs pauvres rejetons, rougissant dans un monde hors la loi. La proviseure, minuscule bonne femme, sèche, au teint glabre, entreprit alors entre chaque cours d'arpenter les longs et sombres couloirs où nous patientions en rang bruyant devant les classes. Les mains nouées dans le dos, regard dissimulé derrière d'obscures lunettes rondes, elle oscillait lentement de la tête, tentant de repérer les impudentes dans les rotules luisantes irradiées dans la pénombre. Premier combat perdu. L'ascendant social des géniteurs, certains libertaires, les autres refusant de modifier l'objet du délit, eut sans doute un effet salvateur, car les genoux continuèrent à scintiller, chaque mois plus nombreux, phares superbes illuminant nos cours de leur rayonnement merveilleux. Or, diriger, c'est anticiper. Et cette femme, bien avant tout le monde, avait compris la mission attribuée aux soldats genoux. Ils constituaient une avant-garde d'éclaireurs. En réalité, ils annonçaient l'arrivée prochaine d'un bataillon de guerrières toutes équipées d'une arme fatale, mini-jupe. Tenue au secret par les acteurs de la mode, elle s'apprêtait à investir nos murs pour accélérer la croissance de nos libidos déjà très sollicités. Note du 21 septembre, 1h15. On poulait tout ça, on poulait. Ça fera pas date dans l'histoire de la littérature. C'est pas grave, je m'amuse. Mini-jupe avait traversé rapidement la Manche pour atteindre Paris. Presque un an lui fut nécessaire pour franchir les étendues sauvages qui séparent le bassin parisien des contrées occitaniennes. Là, quelques semaines d'un siège soutenu lui suffirent. Le lycée, forteresse pénitentieuse perchée sur une hauteur du centre-ville, capitula sans condition. Pecnot, nous étions, sans doute, mais quelle fraîcheur désormais. Mini-jupe nous ramassait au seuil de l'adolescence et nous projetait à la vitesse de la lumière vers cet univers diablement excitant, où gênés, nos érections se dressaient. À peine nos furtifs coups d'œil glissaient au-delà de l'ourlet de la blouse. Or, toute campagne réussie s'appuie sur les ressources locales. Et pour cette ascension, nos regards s'acoquinèrent avec deux sherpas à l'existence opportune, boutons et boutonnières. Sans eux, les sommets n'eussent jamais été conquis. Car sous la tension de la marche, les fils du premier et du deuxième bouton du bas se distendaient puis s'effilochaient très vite, provoquant la chute des petits objets qui, ramassés distraitement, restaient à traîner dans le fond d'une poche. Chaque pas nous permettait alors de guetter l'ouverture fortuite de blouse. Savamment dosée par les plus enhardis, elle libérait nos regards qui, à l'issue d'une course haletante, sur la courbe des cuisses infiniment nues, accédaient à mini-jupe. Perchée à des altitudes inexplorées, celle-ci imposait son ultime frontière, et nos désirs la franchissaient allègrement pour se perdre aussitôt en un royaume aux troubles évocations. Ces incursions visuelles dopaient notre imaginaire. Bouillant et doté d'un appétit orgiaque, il avalait ainsi une quantité inavouable de stimuli. Une sorte d'obésité conceptuelle, libidinale, nous guettait. Boutonnière, bouton et mini-jupe en furent témoins. En compagnie d'un camarade qui avait affublé cette dernière du surnom pertinent de « rat du bonheur », résumant assez bien l'état fébrile de nos espoirs, nous entreprîmes une campagne systématique de sabotage. À la fin des cours, prétextant une tâche quelconque à terminer, nous patientions jusqu'à ce que les bruits des pas s'éteignent au bout du couloir. Puis, nous précipitant vers les porte-manteaux, nous repérions les étiquettes cousues sur le col afin de sélectionner l'élu du lendemain, celle pas assez libérée à notre goût, et dont nous rêvions d'apercevoir la douce perspective de chair rosée. Munis de ciseaux, nous coupions quelques fils des boutons du bas, et le cœur en bataille, nos fous rires éclatant de bonheur, nous dévalions les escaliers jusqu'à la grille d'entrée que nous franchissions en trombe exténuée. Curieusement, ces jeux s'épuisèrent plus tard, confus d'eux-mêmes, comprenant les effets d'un assaut répété sur la même victime. Celle-ci, enfin pervertie, renonçait à recoudre. Et la route des hauteurs demeurait ouverte, esquisse d'un consentement obtenu par outrage, présageant d'autres troubles à venir. Ainsi, avec ce camarade et d'autres, nous formions pour les plus hardis une bande d'acolytes impénitents dont les turbulences masquaient l'essentiel. Nous étions terrorisés à l'orée de l'échéance inévitable, devinant qu'il nous manquait le principal, cet avantage sans lequel nous finirions pétrifiés en statues de fantasmes dans le creux de nos draps, la maîtrise du verbe. Intarissable en discours de bande, où le burlesque côtoyait le vulgaire infantile, impuissant à transformer nos émotions en discours de séduction, nous délivrant de toute cette pression à l'aide de masturbations nocturnes, préférant raillerie, bousculade, moquerie et blagues, nous éprouvions en somme le trac banal de l'acteur, et nos chants d'amour s'étranglaient. Pourtant, nous devions entrer en scène. Juste avant le lever de rideau, nous partagions cette culture commune d'incompétence, l'incapacité d'employer la parole pour charmer. Or, sous les feux de la rampe, nos tactiques d'approche différèrent, et notre troupe de redoutables fiers à bras se scinda en quatre tribus. Les corpos timides, pétrifiés à l'idée d'un contact physique, transcendaient leur angoisse en produisant des avalanches d'écrits poétiques calligraphiés sur de petits bouts de papier, pliés en quatre et glissés sous la table. Ancêtres lettrés du texto, ils permettaient l'allègement mental du soupirant. Mais ils embarrassaient, plus qu'ils n'aidaient à conclure. Les stratégos timides, joueurs de go sans doute, édifiaient de savantes structures géographiques, dont l'idée maîtresse procédait d'un schéma géométrique guerrier dit de l'encerclement en spirale. Toujours à faune, ils se mouvaient avec détermination, se rapprochant peu à peu de la table de classe ou de cantine à proximité de la cible. Puis, proches du côtoiement tant désiré, ils couronnaient leur tactique triomphante au moyen de quelques échanges verbaux d'une sémantique redoutable. « Passe-moi ta gomme, t'as pas une règle, etc. » D'autres, plutôt gaillards, se risquaient à l'option théâtre, qu'ils avaient en horreur, et là, benaient, annonnaient ou bredouillaient de faibles répliques, puis capitulaient. Les indélos timides, subtils et pragmatiques, usaient de la voix royale offerte par le travail scolaire. Étendards claquant au vent, opportunistes des révisions, des cours à rattraper ou même des pompes à constituer, ils pouvaient fréquenter les plus désirables comme les plus délurés. Mais la dimension mentale de leurs manœuvres recelait les germes de l'échec. Leur image d'intellectuel, rampe de lancement fragile et ambigu. Le premier hiver se déroula ainsi. Les petits destins de ces fiers conquérants battaient campagne depuis septembre. Déjà, l'aube du printemps pointait ses espoirs d'escapade et ses richesses bucoliques propices aux conclusions hésitantes. Surgit alors la quatrième tribu, les logos timides. Handicapés du discours, démunis de tout savoir-faire en expression orale ou écrite, ils avaient passé tous ces mois en embuscade. Frais et affamés, très à l'aise dans l'obscurité et l'anonymat, s'étant eux-mêmes découverts guerrieros accomplis et docteurs escamouflage, ils usèrent par surprise et avec brio d'une arme lourde récemment introduite en milieu lycéen, la boum. Et nos proies frémissantes, à la sensualité que nous pensions préchauffer à notre avantage, tombèrent dans les bras des logos timides comme des fruits mûrs. Devant nos mines ébahies, elles franchirent le pas, et bien vite d'autres étapes plus manuelles, au cours de longues, très longues connivences, chères en slow. L'opacité, lentement cadencée sous la chaleur des luminaires clignotants ou tournants, donnait à la transgression l'allure déculpabilisée d'un attouchement inéluctable, logique et toléré, puisque à la mode. Mais quoi? C'était tout? 150 décibels, 3 bières, une température élevée, remuer tout ça dans une pièce sombre et embrasser à l'ébullition? Un affront pour nous, intellectuels orgueilleux, stratèges accomplis ou poètes maudits. Tant d'efforts ruinés pour une composition syncopée de 2 minutes et 50 secondes. Une banale flatterie charnelle, en de circonstances calculées, suffisait donc. Nous étions échec et mat, relégués en position de simple bout en train. Les rangs des 3 tribus primaires s'éclaircirent rapidement et vinrent grossir ceux des guerrieros fanfarons. La boum devint une bourse d'échange. L'équilibre entre l'offre et la demande s'annonça précaire et les lois du marché envahirent notre territoire. Il fallait se battre pour réussir. L'esprit de concurrence s'imposa. J'avais 12 ans. Affligé, je contemplais le désastre. Passé l'épisode fondateur des boutons, j'avais visité ces peuples, adoptant leurs coutumes, participant à leurs célébrations et accomplissant leurs rites. Au cours de mes séjours, j'avais touché à la poésie, à la stratégie, au plaisir ambigu d'une communication intellectuelle. Déçu, J'avais consacré mon énergie aux préparatifs d'une autre exploration, me plongeant dans la lecture d'une quantité de livres aux vertus romanesques affirmées, pensant y trouver le bagage nécessaire à ma quête. Sans m'en rendre compte, je délaissais peu à peu mon appétence naissante pour l'érotisme au glouton du teenager et pénétrais dans un royaume où toute histoire avec une fille devait commencer par un grand H. Anton, le mystérieux, allait être fier de moi. Fort de cette démarche aboutie, dissimulée en lisière de la lumière des spots, je constatais l'effondrement des consciences. Elles dérivaient vers des aventures qui m'apparaissaient trop faciles, suspectes, sans commune mesure avec ces mondes oniriques guidés par de chevaleresques scénarios. Aurait pu y évoluer cette même créature qui, là, sans retenue, se languissait au bras d'un logo timide ou d'un stratégo repenti, si au fond de son cartable ne s'étaient entassés quelques-uns de mes longs poèmes froissés. Choqué, blotti derrière une glotte douloureuse à force de ne pas servir, comme du plomb, ma parole redescendit vers le cœur. L'angoisse dévorait toute initiative. Elle s'installa. Inopérant, je devins allergique. Les mots de l'amour parlé me quittèrent goutte à goutte avant de s'être élevé. Affublé de cette petite mort, mon désir d'atteindre et séduire l'être idéal allait donc emprunter une autre voie que celle du verbe. En tête de la page suivante, Antoine découvrit une liste de 6 noms, intitulée « Les aïeuls ». Cheveux de soleil, yeux neige chaude. Âme flamboyante, yeux galaxie. Petite tête de fouine, yeux herbe mauve. Sœur de cœur, yeux opale et anis. Yeux de chatte en amande. Rouge, sans précision, mais souligné d'un trait au crayon gras. Tes hanches qui oscillaient rue Mirabeau. Ton parfum que tu me jetais au visage. Antoine remarqua cette dernière. Il n'avait rien noté sur son regard. Alors le voici, mon marathon du silence, grogna-t-il en commençant sa lecture. Puis il parcourut chacun des épisodes. Au fil des pages, il renouait avec des actrices extirpées de son adolescence, héroïnes d'aventure au scénario de séduction un peu semblable, à chaque fois une rencontre brutale, saisissante, ponctuée de riches descriptions d'iris et de pupilles. Mais, à l'évidence, sa mémoire n'avait pu qu'ébaucher les aïeuls, les esquisser, mais sans épaisseur, les croquer, mais sans consistance. Antoine ne les avait pas revus, comme on revoit un humain, reconstruisant une silhouette, les contours d'un corps, le son d'une voix. Non, il avait dû les réinventer, à travers ses surnoms et autour du seul souvenir tangible à sa disposition, leurs yeux. « C'est ça, mon monde ?» avait-il souvent ressenti au cours de la rédaction. « Ça ? Un pow-wow d'aïeul anonyme, de fantômes qui ne montrent que leurs pupilles ? Ah, elle va bien, la légende du chevalier Antoine, elle va bien. » Il parvint à la dernière aïeule. « Ah oui, rouge !» la seule qui se rattacha à un personnage réel, disponible dans sa mémoire. Des traits, un corps, un visage. Enfin. Rouge avait été cette silhouette gracile qui, pendant l'hiver précédant son 18e printemps, avait marché à sa rencontre sur le trottoir désert de la rue Mirabeau. Rouge avait été ce trouble face à une trentaine apprêtée. Elle avait ponctué l'air gris de ses balancements. Manteau carmin à l'étoffe chatoyante, cintré au-dessus des hanches, chevelure élégante, distante. Rouge, le grain mat de son front. Rouge, concentré sur ses pas. Rouge inatteignable qui, un matin de givre et de silence, avait levé les yeux une première fois. Alors, qu'avait-il reçu? Qu'était-il advenu en compagnie de cette femme pour qu'il en conservât l'empreinte toutes ces années? Que s'est-il passé qui puisse entraîner aujourd'hui sa présence dans ce carnet aux côtés des autres? Elle qui, justement, n'était pas un fantôme. Il lut. Le murmure imaginé de Rouge. « Oh, je sais, tu essayes de rencontrer mon regard. chaque jour, chaque fois plus fort, et je cède, peu à peu. Oui, j'aime ces secondes qui nous exaltent toujours plus. Elles nous propulsent et pulsent dans nos cœurs le sentiment d'un désir sans contrôle, libéré de ses liens, nos liens. Je les vois grandir, il se nourrit de nos nuits. Mais je devine, hélas, que chaque seconde de plus passée ainsi, l'un dans l'autre nous rapproche, nous entraîne vers un impossible retour. Que veux-tu? Qu'espères-tu? Nous sommes si différents. Peut-être 20 années nous séparent. J'ai vécu le double de ton temps sur terre. J'ai un homme, des enfants. Alors vas-y, passe. Oh non, viens, suis-moi, mate-moi, admire mon dos, laisse courir tes yeux sur mes hanches, dévale ces 8 déroulés dans l'air, reconnais leur origine, mes talons hauts. Ils claquent pour toi sur le pavé du trottoir. Hume mon parfum étoilé, échappe-toi sous ce pull en soie, revêtu pour toi aujourd'hui. Vois-tu que je ne porte pas de soutien-gorge? Perçois-tu cela? Mais si, tu l'as déjà remarqué. Appuyé sur le revers du col rouge ouvert, à la lisière de cette courbe, ce grain dur qui soulève la laine. Nourris-toi, gorge-toi de mes offrandes à l'impossible. Sais-tu que j'épie tes passages? Je connais ton emploi du temps par cœur. Et dis-moi, tu me plais? Je voudrais t'emmener loin d'ici, t'enlever et habiter un monde où l'âge ne ferait pas loi. Là-bas, je t'apprendrai. Je t'apprendrai le regard des femmes, ses langueurs et ses courages, ses infinies variations, ses abandons, ses souffrances et ses pleurs, ses soleils et ses dons au bonheur quand elles aiment. Oui, je t'apprendrai tout ça, et la peur te quitterait. Elle le reconnaîtrait. Alors en eux, tu te sentiras bien. Demain, c'est le printemps. Je porterai une jupe. J'ôterai mon manteau rouge. Et pour toi, je choisirai un chemisier de la même couleur. Rouge comme tes joues quand je te frôle. Comme mes baisers que tu rêves de voir poser sur tes draps. Rouge comme le parfum étoilé que je t'abandonne en te croisant. Rouge interdit. Rouge désir. Mais rouge silence. Pardonne-moi, je dois baisser les yeux. Retiens mon parfum. Garde en toi mon regard. Je te l'offre pour toujours. Ainsi, en compagnie de Rouge, pour la première fois, il s'était aventuré dans la durée du regard. Cette femme, raffinée, généreuse, s'était soumise à l'appel, avait répondu, avait osé l'échange, en laissé aller, dosant l'intime contact jusqu'au seuil du risque. Lui, Antoine, avait soutenu son regard, osé y rester, risquait de se perdre, gagné par une émotion qui, à présent, il s'en souvenait, l'avait porté à s'enflammer, à laisser un long frisson le parcourir, affaiblir sur ses jambes, gagné par un tremblement des lèvres qui, de toute façon, l'aurait rendu muet. Et, rejoint enfin par le sentiment d'une intuition brutale, brûlante, comme s'il avait pénétré cette femme magique qui ne s'était pas encore dévoilée et qu'il ne pouvait qu'imaginer, il avait capté son émoi, son envie d'une effraction consentie. Antoine avait alors atteint un état nouveau du désir, un point fragile, mais d'une complétude grisante. Aujourd'hui, à la lecture du carnet, lui apparaissait l'idée que peut-être il n'avait jamais eu d'autre besoin que celui de le retrouver. Des notes suivaient, rédigé d'une écriture irrégulière, hâtive et douloureuse. Note du 22 septembre, 21h50. J'aimerais savoir si parmi ceux de la bande, d'autres ont choisi le même chemin. Pensez à s'inscrire sur copaindavant.com. Note du 24 septembre, 20h38. J'aurais dû garder mes photos de classe. Et si je ne les avais pas détruites? Pourquoi romancer ton carnet? C'est nul. C'est pas mon truc. Note du 28 septembre. Pas d'heure et pas envie de chercher. Curieux de ne pas se souvenir des prénoms. C'est dingue. Leurs yeux, rien que leurs yeux. Note du 2 octobre, 22h32. 6 années de brame platonique, frappait le garçon, complètement barré. Suivait un long chapitre sans titre. Antoine retourna le carnet pour garder la page, se leva pour demander un verre d'eau que Jacques lui tendit par-dessus le comptoir. Puis il revint s'asseoir, but en regardant la pluie qui à nouveau striait les façades et le flot de la circulation, se dit que son monde ressemblait vaguement à ça, une réalité qui s'occultait par à-coups, sans qu'il puisse jamais prévoir quand. Une somme d'aléas avait exercé une influence sur lui, sur ses rencontres, son rapport aux femmes, jusqu'à la dernière, la sienne. Elle avait tout supporté, si longtemps, composant sans jamais pouvoir les identifier pour les combattre, avec une tribu de fantômes aux comportements erratiques, inhumains. Mais peut-être en est-il ainsi de chaque homme. Il reprit sa lecture.